Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute une vie, c'est le portrait sonore d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et peut-être surtout les suivantes. Aujourd'hui, Cabu, dessiné toujours, une émission proposée par Anaïs Quien avec Sylvia Favre. Avec sa coupe au bol et ses lunettes rondes, sa manière de rire sous cap, ses caricatures, ses reportages et ses sacrées vacheries pour créer l'hilarité chez les adultes comme chez les enfants, Cabu est devenu le dessinateur de toutes les générations. Il est de ceux auxquels on pense toujours avec un sourire et on en oublierait presque qu'il est mort aussi ce jour-là dans les bureaux de Charlie Hebdo. Alors on reprend l'histoire depuis le début pour passer un moment avec lui, le grand Duduche, le beauf, l'adjudant Cronenbourg, sans oublier le nez de Dorothée.
Bah, Cabu, c'est d'abord un trait. C'est un trait de l'encre noire. Je crois qu'il dessinait, il pensait en noir et blanc. Il n'y a pas beaucoup de couleurs dans les dessins de Cabu. Le noir et blanc crée un contraste. C'est deux contraires, le noir et blanc. Et quand vous mettez du noir avec du blanc avec du noir, ça crée une force et aussi une violence aussi, qui, je crois, plaisait à Cabu. Voilà, ça crée quelque chose de dur.
Allez voir Cabu travailler, c'est toujours quelque chose d'assez fascinant. Le voir faire une couverture, c'était toujours quelque chose de fascinant. C'était très artisanal. Il y avait du scotch, il y avait de l'encre des taches, il y avait des choses qui allaient dans tous les sens. Il y avait des bouts de papier collés, contre-collés, surcollés.
Et donc, dans le trait de Cabu, il y a à la fois de l'élégance, l'élégance des silhouettes, l'élégance des personnages, mais en même temps, ce qu'il dessine, ça peut être très dur aussi. Voilà. Avec le trait, avec le noir et blanc, la gamme est très large pour exprimer des choses à la fois raffinées, mais en même temps assez dures et violentes aussi. Et donc, je crois que c'était le trait. Lui, c'était quand on voit ses brouillons, enfin, il fait des essais pour trouver le bon trait, la bonne courbe, le bon mouvement. Voilà. Et c'est pas simplement un dessinateur qui dessine des personnages, quoi. Le mouvement est aussi dans la silhouette et dans la manière de faire bouger la plume, quoi.
Et quand on le voyait faire, c'est surtout un artisan. C'est vraiment un artisan. Voilà. Avec des feutres qui puent. Voilà, c'est ça. C'est ça, Camille.
Ses outils de travail, c'était, une bouteille d'encre avec une plume. Alors des feutres aussi noirs, ou alors des gros feutres épais qui couinaient sur le papier quand il était bien énervé, qui traversaient le papier puis qui marquaient même la table du journal. On sentait que le dessin pour lui c'était physique aussi. Et puis c'est tout.
Dites donc, c'est une belle nécro, hein.
Voilà, on ne voit pas le temps passer, et puis parlons d'autre chose, si vous voulez bien, parce que c'est un sujet triste, et puis je n'ai pas envie d'être triste aujourd'hui. Parce que je crois que le programme que vous avez préparé n'invite pas à la tristesse.
Sa voix nous manque, son rire nous manque. Il y a une présence qui était incroyable, d'abord parce qu'il était très doux aussi. Ça aussi, il faut le dire, dans cette douceur de sa voix, la douceur de son propos, de ses idées. C'est quelqu'un de joyeux, quelqu'un avec toujours un crayon à la main et une feuille dans l'autre. Et là, pendant qu'on est interviewé, par exemple, il serait déjà en train de trouver un trait particulier sur votre visage ou sur celui du preneur de son, de voir que cette perche me rentre quasiment dans le nez et que ça fait rire tout le monde si on constate en plus que j'ai un physique de radio, comme disait Bouteiller.
On fabrique un objet. Un dessin, c'est un objet. Voilà. C'est un fabricant d'images et d'objets, Cabu. Et quand on est dessinateur, c'est ça aussi. On fabrique un objet. Voilà. Un dessin et un objet.
Cabu, toujours là. Un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Franck Lilin.
À 12 ans, j'ai eu un dessin publié dans le Cœur Vaillant, parce que j'étais Cœur Vaillant. C'était les scouts des pauvres, on disait. C'est les scouts de la France d'en bas, à l'époque. Et il y avait un concours de dessin dans Corvaillant que j'ai fait et j'ai eu le premier prix. Voilà. À 12 ans.
Son père lui a dit un jour, on lui dit, ça saurait si on gagne sa vie en faisant des dessins. Mais lui, il dessinait déjà. À 13 ans, il dessinait, il exposait ses dessins chez le coiffeur.
Véronique Brachet.
Et là, tout d'un coup, il y a un journaliste qui s'appelle Bruno Bréglin qui le repère, qui devait venir se faire couper les cheveux et qui lui demande de venir au journal L'Union, le journaliste. Il était le responsable de l'édition de L'Union à Chalon-sur-Marne à l'époque. Et il lui a demandé de venir dessiner dans L'Union et de suivre le conseil municipal. Et toutes les semaines, et très vite, il s'est mis à dessiner dans L'Union. Mais vous imaginez, à 13, 14 ans, 15 ans de dessiner dans L'Union. Donc il a appris, et il le dit lui-même, il a appris ce qu'était la démocratie.
J'allais aux réunions du conseil municipal de Chalon, je faisais des caricatures, et c'est là où j'ai appris mon métier, si vous voulez. Comme c'était une société en réduction, une ville moyenne, quoi, et toute la société était là, en réduction.
Et ça l'a conduit à devenir aussi un dessinateur plus tard, politique. Dans un premier temps, il était un dessinateur qui dessinait la vie de Chalon, qui avait créé un petit journal au lycée, le Petit Fumes, qui faisait un peu les 400 coups, qui n'était pas forcément un élève très studieux. Mais il avait une bande de copains et il commençait à dessiner la vie à Chalon. Des dessins sans parole, mais des dessins importants.
Il vient de Chalon-sur-Marne, qui est en fait une ville-caserne.
Jean-Luc Porquet.
Donc c'est une préfecture, c'est une ville où il y a, je crois, 5 ou 6 ou 7 casernes. Lui-même vivait à côté d'une caserne, était réveillé avec sa famille tous les jours au son du clairon. Donc ville avec beaucoup d'uniformes, donc les uniformes des soldats. Il y avait aussi des bonnes sœurs qui voyaient défiler plein de bonnes sœurs en uniforme. Une ville très propre sur elle, très, très sage. Et lui, il se marrait, en fait. Tout le faisait rire.
Oui, à l'époque, je signais KBU, parce que, à l'époque et encore aujourd'hui, les dessinateurs recherchent toujours un pseudo. Moi, j'avais déjà un nom pseudo, hein, un nom drôle, quoi, Cabu Boira, etc. Mais non seulement j'avais un nom pseudo, il fallait que je trouve encore plus pseudo. Donc, je signais K, trait d'union, BU. C'était un truc de lycée, parce que je dessinais dans le journal du lycée, enfin, que j'avais créé. J'avais créé un petit journal qui s'appelait Le Petit Fumes. Si, ça voulait dire Le Petit Fumiste.
~27 mois en Algérie, c'est long, c'est dur, on voit des choses. Il est resté marqué pour toujours. Et je pense que d'une partie de ses convictions sont venues de la guerre d'Algérie.
La guerre d'Algérie, ça c'est qui l'a marqué totalement.
Sylvie Castel.
Il m'a parlé une ou deux fois, et on ne parlait pas beaucoup. Mais je pense que c'est là, il a vu des tas d'horreurs. Les cadavres, et puis aussi la torture, la enfin bon.
58, il a 20 ans. Il y a deux événements qui arrivent presque en même temps. Il y a un, il réussit à passer une pleine page de dessin dans Paris Match, ce qui était le sommet, qui était la page que se disputaient tous les grands, Bosque, Sampé, etc. Et donc, lui, il arrive à passer une pleine page. Et une semaine plus tard, il apprend qu'il est bon pour le service et qu'il donc, il va se retrouver pendant 2 ans en Algérie.
Je ne connaissais rien à rien. Vous savez, quand je suis parti en Algérie, j'étais encore en civil d'ailleurs. Et je me revois sur le bateau qui nous amène de Port-Vendres à Oran. Où là, à Oran, on débarque au bout d'une nuit. Une nuit de tempête. On était tous dans la cale. C'était affreux. Et on est encore en civil, on débarque à Oran et dans une caserne, on nous colle nos habits militaires et on nous rase la boule à zéro.
Et sa vie bascule, parce que jusque-là, c'était un dragueur, un joyeux fêtard, un rigolo, un mec qui faisait des blagues et tout. Là, il découvre, des gens, on lui met la boule à zéro, l'uniforme. les 14 kilomètres de marche à pied avec un sac à dos qui pèse 15 kilos, les brimades, les humiliations, l'autorité. Mais comme il a quand même eu toujours une méfiance par rapport à l'autorité, notamment au lycée, il faisait vachement gaffe avec les profs et les proviseurs, il essayait toujours de ruser, il va pas contre. Par exemple, il dit que pendant qu'il faisait les exercices de tir, il avait bien compris que il fallait pas viser bien, parce que sinon on se retrouvait dans les opérations les plus dangereuses.
Bref, c'était très dur parce qu'on ne savait pas pourquoi on venait là d'ailleurs. Et chaque fois que. Moi, je me rappelle avoir demandé plusieurs fois à l'adjudant. Et l'adjudant, il ne s'appelait pas Cronenbourg, mais c'était lui qui m'a servi de modèle, c'est-à-dire un adjudant qui était bourré à 10h du matin et qui répétait toujours : vous êtes là pour défendre la France. Je lui disais : mais on est. Le territoire n'est pas attaqué quand même. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Je ne répondrai pas à votre question. On n'est pas là pour faire de la politique. Vous êtes là pour défendre la France. Ah bon ? J'ai compris dès le début que c'était foutu, quoi. J'ai compris que je venais participer quand même à la dernière guerre coloniale et que si j'avais pu échapper à ça, mais à l'époque, je ne savais même pas qu'on pouvait être insoumis aux objecteurs de conscience. Et puis, de toute façon, à l'époque, ils prenaient même les cul-de-jatte, je vous dirais. Ils prenaient tout le monde, ils avaient besoin d'hommes. Et il faut penser que 3 millions de jeunes Français sont passés en Algérie à cette époque.
Ils disaient, bon, heureusement que j'ai jamais eu, en Algérie, jamais eu à tirer sur quelqu'un. Mais il a quand même vu des scènes atroces. Il a vu la connerie à l'œuvre, il a vu l'horreur. Voilà, ça a été un vrai basculement, quoi. Il dit, moi, je suis arrivé... En Algérie, j'étais pas du tout politisé, pas du tout antimilitariste, tout ça m'intéressait pas. Et il est sorti de là, antimilitariste à vie.
Cabus, c'était comment dire...
Riss.
Moi j'ai fait sa connaissance dans le dessin quand j'étais gamin, en lisant Pilote. Il y avait le grand Dudu, Jean Pilote, mais j'étais gamin, j'avais 6 ans, et en fait je comprenais pas tout. Mais c'est ça qui me plaisait, c'est que plus je grandissais, plus il y avait des subtilités que je comprenais. Il y avait dans l'humour de Cabu et aussi dans l'humour des dessinateurs comme Rezer ou Chebet, il y avait des choses qui vous obligeaient à vous tirer vers le haut. C'est des subtilités. C'était pas simplement des blagues de dessins d'enfants, quoi. C'était ça qui était formidable dans Cabu. Il y avait un foisonnement de personnages et c'est aussi un caricaturiste aussi. En fait, c'était un dessinateur complet. Il savait à la fois créer des personnages de BD comme le Grand Duduche, il savait à la fois faire des caricatures politiques, il savait tout faire.
C'est-à-dire que là, je vais sauter quelques années. Quand Harakiri a été interdit une première fois en 1962, Cavana nous a dit « il faut que vous alliez travailler ailleurs, on ne peut plus vous payer ». Alors moi, je me suis présenté à Pilote qui venait d'être acheté par Dargo. Et le rédacteur en chef, c'était Goscinny. Je connaissais Goscinny comme scénariste. Déjà, il faisait les scénarios de Lucky Luke. Et j'aimais beaucoup ça. Donc, je lui ai présenté mes dessins. Mes dessins, c'était des souvenirs de collège, du lycée de Chalon. Et ça lui a plu. Il a pris ses dessins. Il m'a donné une demi-page pour commencer dans Pilote. Et il m'a dit, je suis en train d'écrire un livre qui va s'appeler La Potachologie. C'est sur la vie lycéenne aussi. Donc, je vous demande... si vous pouvez l'illustrer. Alors, évidemment, j'étais content. Et puis, un jour, il m'a dit, vous voyez, le personnage que vous faites dans le fond, là, un grand qui dépasse les autres, eh ben, il faut le mettre au premier plan. C'est ça, votre personnage. Et justement, Goscinny, c'était un ancien dessinateur. Vous voyez, c'était un rédacteur en chef qui nous a tous aidés, comme Cavana, d'ailleurs. Cavana aussi était un dessinateur à l'origine. Et ce sont des gens qui nous ont conseillés, qui nous ont aidés. Et il m'a dit, ce grand personnage, il faut lui trouver un nom. Et au lycée de Chalon, il y avait un grand comme ça, et j'ai trouvé le nom du grand Duduche, parce qu'il avait l'air un peu con, mais il est plutôt romantique, puisque c'était un lycéen qui était amoureux de la fille du proviseur, mais qui n'a jamais pu l'approcher. C'est un amour malheureux, si vous voulez.
Il a ce look, il a toujours eu, toujours gardé. Alors ça coupe là... au bol, ses petites lunettes. Elle a des très beaux yeux, Cabu, hein, très 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 beaux yeux bleus, mais un petit peu cachés par ses petites lunettes à la comme il dessine Duduche, hein. Et puis alors sempiternellement le son de Folcott. Enfin, c'est un look, quoi, comme un look. C'était son look. Je pense qu'il s'était choisi ce look.
J'ai débuté ma carrière au service de presse des éditions d'Argo. Et il y avait un dessinateur qui passait régulièrement devant mon bureau avec ses petites lunettes et qui venait apporter ses planches du Grand Duduche. Mais à la maison, on était abonnés à Pilote. Donc moi, je connaissais bien le Grand Duduche. Donc je l'ai vu en vrai. Et puis quelques années plus tard, on s'est retrouvés. Et on ne s'est plus jamais quittés.
Peu à peu, il va créer le personnage du Grand Duduche et avoir cette autre carrière de dessinateur avec ce héros lycéen, libertaire, marrant, qui passe son temps à faire des blagues et tout. Il va faire ces deux chemins de manière parallèle, quoi. Un chemin Harakiri, avec un humour bête et méchant, violent, et l'autre chemin, le Grand Duduche, beaucoup plus fleur bleue, sympa, rigolo, quoi.
Ça fait partie de son caractère. Rien n'est plus important que le débat, l'émulation intellectuelle. Donc la vie d'une rédaction, c'est fondamental pour lui. Que ça soit à Charlie ou plus tard au Canard Enchaîné, les bouclages, les séances de rédaction, c'est un débat perpétuel. L'important, c'était de se marrer, l'important, c'est d'avoir des convictions et des débats communs, et à un moment, de le traduire en dessin. Finalement, l'important, c'était d'être publié, de faire rire, réfléchir. C'était ça, leur boulot.
Ben, j'ai rencontré Cabu à Charlie Hebdo, dans le premier Charlie Hebdo. Je faisais partie de cette équipe. Il y avait Réserve, Wolinski, Cabu, Willem. Bon, c'est là qu'on est devenus amis. Cabu, c'était un peu comme un grand frère, très amical, très souriant, très charmant, quoi. Très tranquille. Il avait son pain poilane dans sa poche, il dessinait pratiquement tout le temps. C'était un bonheur constant pour lui de dessiner, hein. Et peut-être l'endroit où ça me fait le plus penser à Cabu heureux de dessiner, c'était chez lui, avec son bureau, où il y avait des tas, des amoncellements de journaux, et puis sa radio, parce que il écoutait à la radio des émissions un peu stupides, ça lui donnait des idées. Quand il entendait des bêtises, il trouvait ça très... Il trouvait que les cons, parfois, ils avaient des... Ils pouvaient donner de sacrées idées. Disons que ça l'inspirait. Dans le premier Charlie Hebdo, c'était des relations très fortes, des complicités très puissantes, enfin avec une âme dans ce journal qui était Cavana. Il était très très important, Cavana. Parce qu'il n'y avait pas de conférence de rédaction traditionnelle, quoi. C'était, on se retrouvait, on échangeait des idées, enfin, puis ça montait, chacun se stimulait, enfin, les uns les autres. Et c'était pas formel du tout. Pour la couverture, pour le bouclage, c'était extraordinaire, parce que ils dessinaient, chacun dessinait une couverture telle que lui, il l'aurait faite, enfin, il faisait un dessin. Et puis après, on choisissait, mais collectivement, celle qui semblait à tout le monde la meilleure. Mais il n'y avait aucune jalousie si c'était un qui la faisait ou un autre. C'est ça qui était... c'était formidable. Et puis après, c'est comme ça qu'après, il y a eu dans le journal les couvertures auxquelles vous avez échappé, parce que c'était tous les dessins qui avaient été faits, puis qui n'avaient pas été pris comme couverture. Comment dire, c'était plus qu'une ambiance. C'était... Il y avait de l'âme, quoi, il y avait de l'âme. Il y avait marqué dans le l'ours du journal, rédacteur en chef, toute la bande. Alors on avait une page, et puis on était responsable de sa page, et puis voilà, quoi, il y avait pas de rédaction en chef, comme dans les autres journaux. Ça change énormément de choses. Oui.
Cabu a mené tout un combat contre les TPFA, les tribunaux permanents des forces armées, où il a eu, je ne sais pas combien de procès en justice avec l'armée, une demi-douzaine, je crois, à cause d'une affiche, où il disait « l'état de la justice plus l'état de l'armée, ça fait beaucoup ». Il s'est battu contre ces tribunaux qui étaient faits pour juger des militaires, pour juger des objecteurs de conscience, pour juger des insoumis. Et Mitterrand arrive au pouvoir et Banater supprime les TPFA. Donc voilà, donc il y a eu quand même quelques avancées qui ont fait que Charlie Hebdo était moins en phase avec la société et que cet humour qu'ils avaient avait un peu vieilli, qu'il y avait d'autres attentes. Le punk était passé par là, quand même, il y a eu 77, l'année du punk. Et donc Cabu n'a pas été un ami du punk. L'époque change, l'époque bascule après 77. Et donc Charlie Hebdo n'avait plus assez de lecteurs, les ventes se sont effondrées. Et voilà, donc quand les ventes s'effondrent, on ferme boutique.
Je pense qu'on était très, 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 très heurtés, enfin vraiment blessés, quoi. Enfin, c'est bête à dire, mais en deuil de ce journal et de...
Cabu qui assistait à un concert de Cab Calloway, ça on a quelques bandes pirates qui avaient été faites avec un de ses anciens copains. À l'époque, je ne le connaissais pas.
Jean-François Pittet.
Cabu avait l'habitude de hurler les titres des morceaux qu'il voulait écouter à ce concert de Cab, où il était là quasiment un soir sur deux. Il emmenait tous les copains possibles. Il était au premier rang et il demandait Jumping Jive, qui est un titre connu de Cab. Et au bout d'un moment, Cab Calloway n'en pouvait plus, quoi. Et donc il s'est rapproché du devant de la scène, il s'est penché vers Cabu et il lui a dit « Ferme ton girl ». Bon, ça on ne l'a pas sur la bande malheureusement, mais on a en tout cas quelques demandes pressantes de Cabu auprès de Cab Calloway. Ça, je reviens.
Jumping Jive!
Ça, c'est au Palais des Sports, et c'est insupportable d'être à côté de lui parce qu'il chante, il danse comme un dingue. C'est un gamin, quoi. C'est un caniche cocaïnomane, comme aura dit des proches. Mais vraiment, c'était la joie de vivre, le plaisir de vivre, de ressentir le jazz qui donne envie de taper du pied et puis de danser, quoi.
Arrête de me pousser, papa, je te jure. Un jour, le diable fit une java qui avait tout l'air d'une mazurka. Passa trois temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt, la terre entière par cet air fut enchantée. Les dancings au cimetière, tout le monde la chantait. On le dansait à petits pas, et bien souvent, aux heures des repas, le diable venait sur sa java frapper du pied dans les estomacs.
Les petits malheurs avaient commencé.
Moi je faisais des spectacles à ce moment-là. Il a fait des pochettes de disques pour nous.
Philippe Val.
Et je le connaissais pas. J'étais trop content d'avoir des dessins de lui, d'avoir des. Bon, il nous dessinait des affiches, pochettes de disques. Et puis, un jour, mon producteur de l'époque, qui s'appelait Daniel Colling, et qui a fondé le Printemps de Bourges. Daniel, il a à cette époque-là cette idée pour le premier Printemps de Bourges, pour parrainer ce Printemps de Bourges, de faire remonter sur scène Charles Trenet, qui ne voulait plus chanter. Et Cabu, qui n'avait pas vu son idole chanter depuis des années, puisque Charles ne chantait plus. Cabu vient évidemment à Bourges pour voir Charles Trenet remonter sur scène. Et c'est ce soir-là qu'on s'est enfin vus, Jean et moi. J'ai enfin rencontré ce dessinateur que j'admirais vraiment beaucoup, dans des conditions d'enthousiasme presque d'hystérie, Et Cabus, c'était un vrai groupie de Charles Trenet. C'était un admirateur depuis très très longtemps, depuis son enfance. Pour lui, c'était son idole, mais son idole. C'est devenu la mienne. J'aimais beaucoup Trenet, mais on a communié, Jean et moi, ce soir-là, à l'occasion du retour de Charles Trenet, qui a été, mais triomphal. La salle était très interloquée de voir ce monsieur, qui avait 67 ans, avec costume bleu électrique, œillets rouges à la boutonnière, un gros diamant au doigt, des cheveux teints, blonds, très kitsch. Ils ont regardé ça arriver, ils ont dit « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et puis, il a séduit la salle. Au bout de trois chansons, j'ai vu la salle se lever comme un concert des Rolling Stones et lui faire un triomphe dès la troisième chanson qui n'a pas cessé jusqu'à... On n'en pouvait plus à la fin. Cabu et moi, on avait les mains tout rouges. On avait plus de gorge, on avait gueulé, on avait applaudi comme des malades. On a passé une soirée vraiment étincelante. Et dans les années qui ont suivi, Cabu et moi, on est allé voir... Trenet, quand il chantait quelque part, on allait le voir après en coulisses, parce que Trenet admirait beaucoup les dessins de Cabu, donc il nous recevait très gentiment. Bref, notre rencontre à Cabu et à moi s'est faite sous le parrainage, en quelque sorte, de Charles Trenet, qu'on n'a jamais quitté jusqu'à son dernier concert qu'on est allé voir tous les deux.
Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici, pas souvent, chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, 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 mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il l'a vu à lui. Papa dit qu'il l'a vu à lui.
Et puis, il est venu au Canard, en 82, donc, et au début, son premier dessin, c'était un dessin surmonté d'un truc, l'invité de la semaine. Donc c'était un invité de la semaine qui restait 33 ans. Parce qu'il avait une telle facilité, une telle virtuosité, que pendant que un dessinateur normal fait un dessin, lui en faisait 5. Quoi. Donc il a porté des dessins et très vite il a envahi toutes les pages. Quoi. Donc il faisait à la fois du dessin d'actualité, de dessin poétique. Après, il faisait aussi des dessins d'illustration dans les pages 3 et 4 qui sont des pages de... d'enquête, il y a besoin d'illustrer une enquête, et lui, il était formidable pour ça, il lisait le papier, ou même il disait, oh, racontez-moi ce que vous avez écrit dans votre papier, là, et puis les journalistes racontaient le papier, puis hop, ils se commençaient à déconner, à faire un truc d'illustration. Après, il avait aussi fait un petit strip, avec les aventures du beauf, donc on le retrouvait dans toutes les pages, donc très vite, il a envahi le journal.
La première fois que j'ai rencontré Cabu, c'était un jour où j'étais à Paris, moi j'étais tourangeau, j'étais monté à Paris pour proposer des dessins dans toutes les rédactions.
Luse.
Et je m'étais complètement perdu dans Paris. J'ai passé une journée dans le métro. J'ai juste réussi à aller à l'imprimerie du Canard Enchaîné. Et sous le porche de l'immeuble, j'ai croisé une forme ratatinée dans un caban, et avec des petites lunettes et puis des cheveux coupés au bol. Et je me dis, merde, c'est Cabu. Et je le vois passer devant moi, je comprends que c'est effectivement bien Cabu. Je prends mon courage à deux mains. J'ai pas eu beaucoup de courage dans ma vie, mais celui-ci, je l'ai pris. Je l'ai abordé. Et je vais montrer mon dessin de l'époque. Et je peux le dater précisément le moment où j'ai rencontré Cabu, parce que le dessin, c'était à l'époque d'Élie Cresson, et il y avait un scandale sur les charters de Cresson. C'était le gouvernement socialiste qui avait affrété les charters pour envoyer des immigrés dans leur pays. Et j'avais fait un dessin sur le sujet. Cabu a regardé mon dessin, et donc dans ma tête, il y avait mille roulements de tambour. Il a fait quelque chose qui est très rare. C'est Cabu qui enlève ses lunettes et qui regarde le dessin, et qui scrute trait après trait si le dessin vaut la peine, si la blague est bonne, et si vous avez publié quelque part. Cabu a rigolé à ce dessin-là, je ne savais plus où me mettre, et à ce moment-là, Cabu, qui est sorti du Canard, me disait, bah, c'est vachement bien, c'est très bien. Ton dessin est vraiment, vraiment intéressant, mais il ne faut pas le mettre au Canard. Il ne faut pas le publier au Canard. Il faut que tu viennes avec moi à la Grosse Bertha. Parce que le Canard, ils ont... Canard, c'est pas des dessinateurs qui choisissent les dessins. Et là, je l'ai suivi à la Grosse Bertha. On a pris le métro ensemble. C'était peut-être la troisième fois dans ma vie que je prenais le métro et je l'ai pris avec Cabu et tout d'un coup Paris commençait à devenir intéressant. Ce qui était marrant, c'est que quand j'ai pris le métro avec Cabu, les premières choses que j'ai entendues en prenant le métro avec Cabu, c'est les gens qui disaient hey, Cabu, recrade, ouais, salut, etc. Je prenais le métro avec une star. Avec une star. Une star très acoustique puisqu'elle prenait le métro. Et en fait, il a fait quelque part ce que peut-être d'autres personnes ont fait pour lui, ou peut-être personne n'a fait pour lui à l'époque. C'est-à-dire qu'il m'a pris sous son aile en tant que provincial qui est arrivé à Paris.
Alors, c'est sûr et certain que Cabu, durant la période des années 80 où Charlie Hebdo n'existait plus, on sentait que son rêve, c'était qu'un jour, un nouveau, alors je vais pas dire nouveau Charlie Hebdo, mais qu'un nouveau journal satirique comme Charlie Hebdo reparaisse. Et quand au début des années 90, il avait fait un livre, je crois, avec un éditeur qui s'appelait Jean-Cyril Godefroy, je crois que cet éditeur lui a proposé de faire un journal satirique qui a été La Grosse Bertha. Pour lui, c'était l'opportunité, pour la première fois depuis la fin de Charlie Hebdo en 80 ou en 82, de créer un nouveau journal satirique. Ça a toujours été son rêve de, je vais pas dire de recréer Charlie Hebdo, parce que c'est toujours difficile de se dire qu'on va recréer un journal disparu. Les titres disparus revivent rarement, réapparaissent rarement. Il était à l'origine de la renaissance de Charlie, de la reconstruction de l'équipe. Enfin, c'est lui qui était le moteur de tout. C'est lui qui a demandé à Philippe Val de venir rejoindre La Grosse Bertha. Et c'est lui aussi qui a encouragé les jeunes dessinateurs comme nous à dessiner, parce que il voyait bien qu'il fallait faire venir des jeunes. Donc il voyait loin aussi, il fallait faire confiance aux jeunes dessinateurs. Il était vraiment la clé de voûte de cette renaissance de Charlie, ça c'est sûr et certain. Il n'y aurait pas eu Cabu, je crois que Charlie ne serait jamais reparu. En fait. Et il a fédéré autour de lui, il a recréé une dynamique autour de lui pour faire ce journal.
La caricature, moi, je sais pas très bien comment ça se fait. Je sais que il y a des personnages qui sont plus ou moins difficiles à croquer parce que leur grimace est plus difficile à débusquer. C'est ça la caricature, hein, c'est trouver la grimace. Donc.
C'était une silhouette que je voyais comme ça dans les locaux de La Grosse Bertha. C'est un jour, il est venu vers moi pour me parler d'un dessin que j'avais fait. Ça m'étonnait beaucoup. J'avais dessiné Rocard qui se faisait écarteler par des chevaux. Et j'avais fait un petit décor. Il m'a dit, de manière un peu, pas abrupte, mais il m'a dit, faut que tu fasses des décors. Il avait repéré que j'aimais bien faire des décors. Ça m'avait un peu étonné parce que je pensais qu'on n'avait pas le droit de faire des décors quand on faisait du dessin de presse. Je pensais qu'il fallait juste dessiner des personnages qui disaient des choses. Et là, il m'a un peu ouvert des perspectives. Là, j'ai compris que je pouvais dessiner, faire des choses un peu plus élaborées en dessin. Et puis après, tout doucement, j'ai appris à le connaître. Mais c'est vrai que quand on est débutant et qu'on voit Cabu, c'était un monument, quoi.
Ça faisait 10 ans que Cabu me disait, il faut qu'on fasse un journal ensemble. Et un jour, je passais, je sais plus trop dans quel théâtre. À la fin d'un spectacle, on était en train de discuter dans les coulisses, Cabu et moi. Il me dit, j'ai trouvé un éditeur, on va faire un journal ensemble, ça y est. Et on a fait la Grosse Bertha. Alors, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait un rédacteur en chef, il y avait déjà une équipe qui ne nous convenait absolument pas. Pour des raisons, j'allais dire, plus éthiques que politiques. Il y a eu vraiment de très très gros problèmes très vite parce que moi j'avais, ni Cabu ni moi, n'avions besoin matériellement de La Grosse Bertha. On gagnait notre vie confortablement l'un comme l'autre. Et alors il y a eu un conflit très rapidement, il y a eu un conflit très violent, et c'est la première fois que j'ai vu Cabu, et c'est la seule fois d'ailleurs que j'ai vu Cabu piquer une colère gothique contre le rédacteur en chef de ce journal, et virer le rédacteur en chef. Il a viré le rédacteur en chef. Et on s'est fait virer un lundi, et il me dit, on s'en fout, on va refaire un autre journal. Je dis, ouf, oui. La semaine prochaine, on va ressortir un nouveau journal. Et ça s'est fait comme ça. On s'est fait... Il dit, sorte le jeudi, on va sortir le mercredi. On était un lundi. On avait moins de 8 jours devant nous pour sortir un journal. Et on était deux.
Il se fâche avec le directeur de la grosse Bertha et Cabu avait fait venir Philippe Val. Philippe Val, qui connaissait depuis des années, puisqu'il faisait ses pochettes de disques, il était chanteur, il allait à ses concerts, ils étaient très, très amis avec Philippe Val. Et ils font une réunion tous ensemble, et Cabu dit « Eh bien, on sort un journal la semaine prochaine ». Et tout le monde dit « D'accord ». Mais il fallait trouver un nom à ce journal. Et c'est Volinsky qui a dit « Mais pourquoi ne l'appellera-t-on pas Charlie Hebdo ?» Et à ce moment-là, Cabu et Philippe Val et Volinsky, je ne sais pas si Volinsky y était, ils sont allés voir Cavana pour lui demander l'autorisation. Et Cavana a écrit la charte du journal, qui est toujours d'actualité.
Cabu était aux anges, parce que son rêve était de relancer Charlie Hebdo. Son rêve total, son rêve absolu, c'était de relancer ce journal pour les raisons... C'est-à-dire trouver un endroit où on puisse dessiner en liberté et publier des dessins qu'on ne pourrait pas publier ailleurs parce que peut-être que les annonceurs publicitaires en voudraient pas, peut-être que ceci, peut-être que cela, peut-être que les opinions politiques de l'actionnaire, gna 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 gna. Enfin bon, là, les actionnaires, c'était Cabu et moi. Donc on était tranquille. Voilà. On faisait ce qu'on voulait.
C'est toujours un peu un équilibre, une alchimie, je vais pas dire improbable, qu'autant de personnalités très fortes, parfois très différentes, arrivent à faire quelque chose de commun. C'est à chaque fois un petit miracle, toutes les semaines, parce qu'on pourrait se dire, si chacun laissait sa nature s'exprimer, ses convictions les plus profondes s'exprimer, il y aurait toujours une raison d'être, de quitter le journal. Je suis pas d'accord avec ceci, je suis pas d'accord avec cela. Donc en fait, l'habileté de ceux qui ont fait journal, c'est aussi de laisser un peu une marge de manœuvre aux uns et aux autres pour qu'ils puissent s'exprimer. Chacun a pu trouver sa place comme ça pendant des années, même si on voyait bien que des fois, tout le monde n'avait pas forcément les mêmes analyses politiques. Et qui fait que on a pu cohabiter comme ça pendant toutes ces années. Ce qui était supérieur à tout, c'était l'existence du journal. Il fallait rien faire qui mette en danger le journal. Donc c'est pour ça que chacun aussi savait un peu mettre de l'eau dans son vin quand c'est nécessaire. Parce qu'on savait qu'un journal comme ça, on n'en aurait pas deux dans notre vie. Mais c'est vrai que parfois, il y a pu avoir, c'est toujours pareil dans les périodes de crise politique, les passions se réveillent. Voilà, ce qui parfois est un peu en sommeil ou qu'on laisse comme ça un peu sous le tapis pour des raisons diplomatiques, des fois ça se réveille. C'était le cas pour la crise au Kosovo. C'est vrai que ça, c'était assez tendu dans le journal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut intervenir? Donc là, il y a toute l'histoire pacifiste de Charlie Hebdo, donc il y a un dilemme, qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit ce qui se passe là-bas? On avait déjà été témoin, pendant les années 90, de tout ce qui s'est passé en Serbie, en Bosnie. Le journal est reparu en juillet 92, c'est-à-dire en pleine guerre de Yougoslavie. Et je me souviens, une des premières couvertures de Cabu, c'était un déporté derrière des barbelés. On n'avait pas vu ça depuis 1945, donc le journal a été confronté très tôt à des questions qu'à mon avis... le Charlie des années 70 n'a pas connu. Crimes contre l'humanité, on n'avait pas entendu parler de ça depuis 45. Génocide, est-ce qu'il faut intervenir ou pas? Donc, on vivait avec le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, de tout ce qui s'est passé, puis là voilà qu'on était à nouveau nous-mêmes confrontés à des questions qui étaient presque identiques. Est-ce qu'il faut effectivement faire intervenir la force armée pour éviter que des gens finissent dans des fosses communes? Là, on n'est plus dans le théorique ou dans le dessin satirique, on est dans la politique. Donc, déjà, la Yougoslavie, je me souviens, je voyais bien que ça mettait déjà le journal en face de questions qui n'étaient pas faciles. Le Kosovo, là, ça s'est exprimé de manière assez dure dans le journal, parce que c'est vrai que ça mettait un peu à l'épreuve les convictions de Charlie Hebdo. Après, il y a effectivement des circonstances, il y a eu l'affaire Fonte s'est retrouvé voilà, accusé et condamné pour des attouchements. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y avait la chronique de Ciné qui fait qu'il est... Enfin, lui dit qu'il a été viré de Charlie, ben, bref, au bout d'un moment, il n'était plus dans Charlie. Donc là aussi, ça nous mettait à l'épreuve beaucoup de choses. C'est tout le contraire de ce qu'on voulait, en fait. C'est tout le contraire de ce qu'on avait réussi à faire, où on a réussi à cohabiter, à faire cohabiter des gens qui, c'est vrai, avaient des personnalités très fortes, mais où chacun arrivait à faire quelque chose qui dépassait ses susceptibilités personnelles, qui était de faire Charlie Hebdo. C'était au-dessus de tout. Il fallait que Charlie Hebdo existe d'une manière ou d'une autre. Voilà.
Donc, elle était dans une salle de rédaction, à Charlie. Il se mettait au bout de la table, pas comme un patriarche, mais plutôt parce que au bout de la table, c'est là où tu as le plus de place. Et Cabu, quand il dessine, il prenait pas mal de place. il sortait plein de crayons, des crayons qui étaient parfois très dangereux parce qu'il y avait des feutres qui empuantaient toute la rédaction, des espèces de feutres à l'alcool à 90. Je sais pas d'où venaient ces armes. Ces armes antibactériologiques. Cabu faisait aussi partie des gens qui arrivaient le plus tôt à la rédaction, des gens qui partaient le plus tard. C'est quelque chose qu'on a su après tout, c'est que Cabu, apparemment, restait très longtemps après le bouclage à Charlie ou à Rakiri avant, enfin dans l'ancien temps, dans ce temps des années 70, etc. C'est-à-dire quand les autres faisaient la fête, Cabu était en train de finir sa page et il allait à l'imprimerie.
Ça se passait à sa table, à dessin, de 9h à minuit. D'accord, il s'arrêtait sans doute pour déjeuner ou pour les jours de bouclage, mais il travaillait énormément. Il travaillait énormément à savoir, un, la lecture des journaux, donc des piles de journaux à lire pour trouver des idées. Il écoutait énormément la radio. Il prenait des notes qui lui permettaient de réfléchir et de trouver l'angle. Donc cette espèce de nourriture, et il regardait beaucoup la télé aussi. Il dessinait devant la télé, allongé par terre, en train de dessiner en direct un personnage politique. C'était ça. Sa vie, c'était le dessin. C'était d'être derrière sa table à dessin. L'important, c'était que les dessins soient publiés. Ça avait toujours été ça.
Quand il y avait des événements, politiquement tragiques, l'arrivée de Le Pen, etc., au pouvoir, plutôt que d'être dans une colère inutile, je pense qu'il bossait. Il bossait, c'est tout. Il bossait dans ce grand bordel. Il trouvait ses idées dans ce grand bordel. C'est son sac, avec plein de ses dessins, avec ses notes. Parce que Cabu, c'est aussi un homme de sac. c'est un homme de petits papiers, voilà. Et des petits papiers où il y a des notes de dessin, des bouts de trucs, des bouts de tête.
Et je pense que sa force artistique était telle que il entraînait avec lui quelque chose autour de lui... sans être du tout un leader, un meneur d'hommes. D'ailleurs, il disait... C'est pour ça qu'il voulait tout le temps qu'on travaille ensemble. Il me dit, toi, t'es un chef d'équipe, t'as fait du théâtre, tu sais les entraîner. Moi, je sais pas. Alors, on avait un truc, on était toujours assis l'un à côté de l'autre. Et dans la conférence de rédaction, il me passait des petits papiers... Quand il n'était pas content d'un truc, quand il voulait critiquer quelque chose dans le journal précédent, quand on faisait des débriefs, parce qu'il avait peur de s'énerver. Il ne voulait pas s'énerver. Donc, il préférait que ce soit moi qui balance. Donc, c'était notre façon de fonctionner.
Cabu en colère, c'est pas quelque chose que je garde en mémoire, de toute façon. Je veux dire, Cabu qui se marre. Et peut-être que c'est vrai que c'est peut-être une image que l'on a qui travestit un petit peu la profondeur politique de son travail, mais peut-être un gentil bonhomme avec un dessin de fer.
Cabu, viens voir.
C'est beau comme ça. Voilà. C'est bien, il est indigné, il est. Tu
vois. Voilà, il est rouge de colère.
Rouge de colère.
Et de dépit.
C'est bien, c'est bien.
Ouais. T'as vu, je vais essayer un autre rose. Là, c'est plus rouge.
Non, je crois pas. C'est avec le noir, on n'a pas intérêt à faire trop foncé, tu vois.
En tout cas, il y a un truc qui est malin, c'est. On n'a pas vu le. Là, on ne voit pas le visage, on a oublié. Comme ça.
C'est lui. Un mercredi matin est arrivé un peu comme ça, excité avec son sac, autour, il s'est assis, il a fait le tour de la table, en fer à cheval, la table de rédac, il s'est assis à sa place, il nous disait, vous avez vu ce qui se passe à François, le patron a été viré parce qu'ils ont publié des dessins, c'était les fameuses caricatures de Mahomet, et nous on n'avait pas du tout entendu parler de cette histoire, on n'avait pas fait gaffe. Mais lui, il avait vu ça, quoi. Il a vu la signification politique, quoi. On a censuré des dessins et un type a été viré parce qu'il a publié des dessins. Il a toujours un peu une longueur d'avance sur nous en matière d'actu. Voilà. Parce qu'il regardait tout, il était à l'affût de tout.
Voilà. On en a plein de couvertures. Après, on a intérêt à être couvert, quoi.
Il faut regarder.
Oui, c'est un titre.
Être aimé par des cons, c'est... c'est dur d'être aimé par des cons.
Ça, c'est pas mal, ça.
Ouais, c'est cruel, mais c'est pas mal. Ah.
Tu vois, c'est dur d'être aimé par des cons.
Mais on l'a, de toute façon, la une.
Et toi, Cabu, tu vois une façon de l'améliorer, ton dessin?
Non, pas trop. Mais je tu sais, celui qui le fait, il voit pas ce que les autres voient, hein, souvent.
Il est pas antipathique, là.
Non, justement, il est affligé, quoi. Il est affligé.
Il est affligé,
bon, mais...
C'est bien ce qu'on veut dire, il est affligé. Ouais,
L'affliction,
ça veut dire les abats, les fascistes, ce dessin, c'est ça que ça veut dire. Point.
Tout démarre avec l'affaire des caricatures, donc les fameuses caricatures danoises, où Philippe Wahl décide de les héberger dans son journal et de faire un numéro spécial avec ces caricatures. Donc c'est un numéro qui fait sensation, qui est très controversé, il y a des manifs islamistes dans les rues de Paris, il y a des menaces qui déferlent sur Charlie. Donc oui, à partir de ces années-là, ce débat sur l'islamisme est devenu peu à peu central, quoi. Il s'est retrouvé quand même sous escorte policière pendant quelques jours, quelques semaines. Bon, il prenait ça la rigolade... Bon, il m'avait invité un jour à une soirée de jazz dans une cave à Saint-Germain, où il y avait deux flics qui étaient là, quoi. À l'époque, on se marrait en disant, alors là, vraiment, des flics juste pour voir deux, trois mecs jouer de la trompinette, vraiment, c'est n'importe quoi, on trouvait ça un peu ridicule, voilà. Bah, il y a eu quelques alertes, donc quand la rédaction de Charlie Hebdo a flambé quand même, c'était une première menace. Puis après ils ont su quand même beaucoup de menaces de mort. En même temps, il vivait sa vie, je pense quand même que ça a été quand même pour lui des très belles années, parce qu'il y avait une grande exposition Cabu à l'Hôtel de Ville. Il y a eu des centaines de milliers de visiteurs. Il a affrété des péniches sur la Seine, il embarquait des centaines d'invités, enfin. Tout le monde, c'était une sorte d'apothéose avec cette exposition à l'Hôtel de Ville. Je crois qu'à peu de temps après, Mano Solo est mort. Et puis après, voilà, après il y a eu les attentats, quoi.
C'est un événement mondial provoqué par le dessin, quand même. C'est,
ouais, ouais, ouais.
C'est rare.
On va peut-être déclarer un troisième guerre mondiale, ça se
trouve. Ah ouais, on déclare un quatrième guerre mondiale. Troisième.
Ah oui.
Troisième.
On est où là déjà?
Ça veut dire. La liberté va en enfer.
Plutôt que la démocratie, quoi.
Bah, oui.
Je crois qu'il a eu un prix. Je trouve pas l'idée pour la liberté.
Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Ah bah la liberté.
Ah bah la liberté, mais c'est, je l'ai trouvé dans les photos là.
Oui, j'ai vu ça.
Ah bah la liberté. Ils disent au diable la liberté, mais c'est mieux ah bah la liberté.
C'est un peu réac la liberté.
Tu vois pas d'inconvénient à ce que je filme mes dessins qu'a vu?
Bah non. J'osais pas te le demander, mais.
T'es à quoi? T'es à 6 mois de la retraite?
Oui.
Donc nous, on est encore vachement jeunes.
Tous les dessins vont être signés Cabu, au fait.
Mais où va Valensky? Parce qu'il est près de la retraite aussi, lui. Comme moi, hein. Vous croyez qu'on a la couverture?
Vous croyez qu'on va sauter?
Non.
Ça.
il y avait quand même eu les prémices de l'attentat avec leur un incendie. Enfin, la seule fois où j'ai vu j'ai vu Cabu avoir peur. Il avait reçu plein de coups de fil quand il y a eu les caricatures de Mahomet, de gens pour le, enfin qu'il avait appelé, mais personne n'était allé le voir chez lui. Il était seul et c'est la seule fois où je l'ai vu avoir peur. Il m'a dit qu'il avait peur avant les attentats. C'est la seule fois où je l'ai vu comme ça. Je pense qu'il avait peur. Que ce climat de menace violente. Oui, ça se sentait. Il avait peur, ça, il me l'a dit qu'une fois. Une fois seulement, je l'ai vu avoir peur.
Cette publication a changé quelque chose, oui. Ça les a rendus dépositaires, conscients de ce dont ils étaient déjà dépositaires, à savoir l'affirmation de certaines idées auxquelles ils tenaient, mais qui présentaient peut-être moins de risques avant, et qui tout d'un coup se sont mis à présenter un risque. Je pense que ça a changé tout. Ce sont des périodes qui nous marquent et on ressort tous différents de ça. Aucun de nous n'a peur. Enfin, aucun de ceux qui ont décidé, l'unanimité moins une voix, en quelque sorte, de publier les caricatures. J'avais fait monter même les administratifs, les abonnements, machin, les services, tout le monde est monté pour. Je leur ai dit voilà ce que je pense qu'il faut faire, mais je veux votre accord parce qu'il y a un risque. C'est donc vous déterminez, vous dites ce que vous voulez, vous êtes libre de dire qu'on vous voulez pas. Ils ont tous décidé de... C'était ça ou la mort du dessin de presse. Ils ont compris qu'il y avait un enjeu très grave, que le dessin de presse ne pouvait pas obéir. Je pense que ça les a beaucoup frappés aussi que Lefran, le patron de France Soir, se soit fait virer par l'actionnaire pour avoir publié ses caricatures. C'est inacceptable. Donc c'était pas acceptable. Que ce type, il les avait pas publiés du tout pour par provocation, hein. C'est pas du tout un provocateur. Simplement parce que il voulait que les gens sachent pourquoi il y avait le bordel au Danemark et montrer le document. Enfin, pourquoi c'était la merde au Danemark dans le au Jyllands-Posten.
Comment on aurait pu imaginer, dans ce premier Charlie Hebdo, comment on aurait pu imaginer que il soit assassiné, et les autres aussi, toute cette rédaction décimée, qui était dans nos pires cauchemars, jamais on n'aurait pu imaginer une chose pareille. On se moquait d'un monde violent, brutal. Oui, il est devenu encore plus dingue. C'était pas l'adjudant Cronenbourg. Et ça... C'est une tragédie, l'histoire de ce journal, en fait. Ben oui, parce qu'à ce moment-là, bon, qu'est-ce qu'on avait ? On avait des procès. pour un jour l'armée notamment. Oui, ça, c'est des procès. Il y avait eu des interdictions, mais enfin, jamais c'était concevable que on se fasse assassiner à la Kalachnikov pour un dessin. Sous prétexte d'un dessin. Impensable.
Dans une rédaction, donc, qui était celle que j'ai connue avec Abu, qui était celle de Charlie Hebdo, on rigole, on plaisante, etc. On échange, on parle politique, on parle de l'actualité. Mais très souvent, il ne se passe rien, il y a un grand silence. Parce qu'on est très studieux. On est un peu comme des étudiants à la bibliothèque. Et la seule chose qui ponctuait ce moment-là, c'était le pic-pic de Cabu quand il trempait sa plume dans son petit pot d'encre qui en général était déjà presque vide. Donc pic-pic, c'est le bruit de la plume qui cogne le fond de la bouteille d'encre. Et ça, c'est quelque chose qui me manque. Et en même temps, c'est quelque chose que j'ai retrouvé parce que depuis qu'il n'est plus là, depuis que je suis parti de Charlie, depuis tout ça, moi, je dessine à la plume. Donc, je crois que quelque part, je comble son manque avec la technique. J'ai fait ce que une interview comme Cabu l'aurait probablement fait, c'est-à-dire en dessinant. J'ai dessiné mon prochain personnage. J'ai dessiné un type qui est en train de regarder un film porno avec son chien. Voilà. Et dedans, c'est politique, je vous promets que c'est politique. Ça parle de la virilité, donc c'est politique.
Avec Jean-Luc Porquet, biographe de Cabu, lui-même journaliste au Canard Enchaîné, Rhys, dessinateur, directeur de publication de Charlie Hebdo, Véronique Brachet, la compagne de Cabu, Sylvie Caster, son amie, Luz, dessinateur, ancien de Charlie Hebdo, Philippe Val, ancien rédacteur en chef et directeur de publication du deuxième Charlie Hebdo et ami de Cabu. Jean-François Pittet, compagnon en jazz. Merci à Alain David. Attaché d'émission, Sylvia Favre. Prise de son, Johanna Gabric, Michael Simon, Ludovic Auger, et Hervé Dubreuil. Mixage, Pierrick Charles. Cabu, toujours là. Un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Franck Lilin. Thank you.